Il est 8h23 à Paris. Voici la revue de presse des journaux français avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, la réforme des retraites et le gouvernement qui passe en force.
Et pour Libération, c'est une forme d'échec. Une réforme pensée par des sociodémocrates, mise en œuvre par des technos et des politiques de droite. Pour quel résultat? Eh bien un fiasco politique, s'exclame Libération, qui se termine provisoirement par la décision prise samedi, donc par le Premier ministre, de dégainer le 49-3. La mutation radicale de dizaines de régimes de retraite vers un système universel par points aurait pu être l'incarnation du « en même temps » macronien, soit un système plus redistributif avec des garanties pour les retraités les plus modestes d'une part, des incitations à travailler plus longtemps et la promesse tant réclamée par le camp libéral et conservateur d'en finir avec les régimes spéciaux d'autre part. Ce texte, présenté par les piliers de la majorité comme la mère de toutes les batailles de la Macronie, ce texte devait signer la nouvelle méthode de l'exécutif, l'apogée de son acte 2, autoproclamé au sortir de la crise des Gilets jaunes. Eh bien, avec l'utilisation du 49-3, il sera difficile de convaincre que l'heure est désormais à l'écoute, pointe encore Libération, même si la majorité aura beau jeu de rappeler les quelques 115 heures de débat au sein de l'hémicycle qui s'affichent déjà au compteur.
Le Figaro, lui, parle de gâchis.
La responsabilité de cette foire d'empoigne est en partie imputable au pouvoir exécutif, affirme le Figaro. Qu'a-t-il fait depuis 2 ans et demi qu'il prépare son projet ? Ambitieuse et séduisante sur le papier, cette réforme des retraites a finalement accouché d'un travail de gribouille, s'exclame le journal. Un texte mal ficelé, bancal, lacunaire, qui met toutes les professions ou presque dans la rue. Pire, poursuit le Figaro, personne ne sait comment sa mise en œuvre pourra être assurée. Une conférence de financement organisée à la hâte doit le dire, mais celle-ci vire aussi à la cacophonie. Bref, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. La mère de toutes les réformes, selon l'expression consacrée, exigeait une préparation plus sérieuse et une méthode plus rigoureuse, estime encore le Figaro. On ne change pas un système vieux de plus de 70 ans en improvisant son successeur sur un coin de table. Cela s'appelle avoir les yeux plus gros que le ventre. Quel gâchis.
Sud-Ouest est à peu près sur la même ligne.
Oui, s'il voulait éviter l'enlisement qui s'annonçait, le Premier ministre n'avait d'autre choix que de recourir à cet article 49.3, affirme Sud-Ouest, qui, rappelons-le, a été utilisé par presque tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, et ne s'apparente en rien à ce coup de force que d'aucuns dénoncent. Mais il est vrai que le duo Macron-Philippe s'y est particulièrement mal pris depuis le départ, relève également Sud-Ouest. Trop pressé, il s'est privé de la possibilité d'organiser un débat plus rationnel, sous le régime dit du temps programmé. Il s'est surtout mis lui-même le couteau sous la gorge, en voulant à tout prix aboutir à un vote avant les élections municipales, comme si les deux sujets étaient liés. Mal comprise et mal acceptée par une grande majorité de Français, la mise en place d'un régime universel de retraite, réforme présentée comme la plus emblématique du quinquennat, aurait mérité un débat sérieux et approfondi au Parlement. Il faut espérer, conclut Sud-Ouest, qu'il puisse enfin avoir lieu ce débat au Sénat, puis qui sait, en seconde lecture à l'Assemblée nationale.
Enfin, l'humanité s'indigne.
Quelle farce, quel irrespect, quelle morgue, décidément. Rien n'arrête plus ce pouvoir, s'exclame le quotidien communiste, se croyant protégé par la progression du coronavirus qui inquiète beaucoup le Premier ministre au crépuscule d'un samedi soir à organiser un coup de force contre le Parlement. Même les députés de sa majorité ont été surpris pour détruire l'élément essentiel du pacte social français que sont les retraites solidaires par répartition. Une camisole de force veut tenir silencieuse l'Assemblée nationale.
Le coronavirus, justement, l'épidémie continue de s'étendre en France.
Et selon un sondage publié par Le Parisien, l'épidémie de coronavirus inquiète 61% des Français. Le Parisien qui s'interroge, qu'y a-t-il de plus contagieux que ce fameux virus? Eh bien, la peur du coronavirus, répond le journal. Alors que la France a franchi ce week-end le seuil symbolique des 100 cas de contamination pour atteindre hier soir les 130 cas, et que les mesures de vigilance ont été relevées d'un cran, l'anxiété, elle, galope sans frein et infuse le quotidien et les conversations, et ce, bien au-delà de l'Oise et de la Haute-Savoie, alors que les médecins et les autorités sanitaires répètent à longueur d'interviews et de conférences de presse que les formes de la maladie sont en majorité sans aucune gravité. En effet, pointe le Midi Libre, c'est finalement davantage l'inquiétude qu'il faut maintenant combattre. L'exemple du Louvre et de ses salariés exerçant leur droit de retrait hier en fermant le musée montre que la communication quotidienne nécessaire et salutaire ne parvient pas à enrayer la peur de ce virus inconnu il y a encore un mois. Ici ou là naissent donc des questionnements sur la tenue de grands rassemblements et la présence de chacun au sein de foules ou de groupes. Pourtant, la mise en œuvre rapide des moyens de détection efficaces, les prises en charge immédiates et les précautions à prendre répétées par les autorités sanitaires devraient rassurer.
Enfin, la Syrie, avec l'opposition de plus en plus flagrante entre la Russie et la Turquie.
Oui, aujourd'hui en Syrie, après 9 ans de conflit, des armes turques tuent des soldats syriens et des armes russes tuent des soldats turcs, constate la Voix du Nord. Ce conflit qui n'en finit pas est la plus tragique démonstration de l'impuissance diplomatique actuelle. Devant cette désertion des démocraties libérales, les régimes autoritaires se sont sentis plus forts que jamais. La Russie, donc, de Vladimir Poutine, veut faire oublier ses défauts domestiques, une économie de rente, une population en souffrance, une démocratie approximative par ses ambitions diplomatiques. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan, elle, tente de vendre à une population qui rêvait autrefois d'une prospérité à l'européenne la possibilité d'un retour à la grandeur ottomane passée. En tout cas, il y a peu de risques d'une confrontation armée directe entre les deux pays, estime le Figaro. En effet, en Syrie, tout comme en Libye, Poutine et Erdogan semblent désormais rôder à l'exercice. D'abord les menaces, puis la provocation militaire, ensuite seulement les négociations.
Frédéric Couteau pour la Revue de Presse, à retrouver en ligne.